Dans un trou vivait un hobbit et on est allé lui rendre visite.
Victoire de canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare.
Regarde mes trois petits canards comme ils sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin. Salut Gabriel.
Salut Vicky. Où est-ce qu'on était cette semaine?
On était à la BNF voir l'expo de Tolkien.
Alors je suis hyper jouasse. En tout cas, moi je sais pas toi.
Ouais.
Moi j'ai vu les films quand ils sont sortis au cinéma, donc j'étais quand même pas bien vieille quand le premier est sorti.
Ah moi non, là c'est venu plus tard.
J'avais Orlando Bloom en poster dans ma chambre, très clairement.
Ah ouais.
Ouais non si.
Ah, et donc super fan.
Alors j'ai jamais lu les livres, j'avoue tout.
Moi non plus.
Mais j'étais quand même très très enthousiaste à l'idée d'aller voir cette exposition. Et c'était génial.
C'était
vraiment trop bien. Alors, petite bio.
Petite bio.
Donc le nom de l'auteur du Seigneur des Anneaux, c'est son vrai nom complet, c'est John Ronald Reuel Tolkien. J.R.R. pour les intimes, et déjà ça c'est compliqué. Il est né en 1892, il va participer à la Première Guerre mondiale et notamment à la bataille de la Somme. Et les paysages désolés qu'il va voir en France vont entre autres l'inspirer pour imaginer le Mordor. Il devient ensuite professeur à Oxford, professeur de vieil anglais en 25. Il va publier Le Hobbit en 1937, Le Seigneur des Anneaux en 55 et il meurt en 73. Et s'il commence à publier seulement en 37, en fait c'est vraiment l'œuvre de sa vie. Il commence à y penser en 14 au début de la guerre. Et il s'arrête en 73 après avoir écrit 1000 chants et romans annexes. Donc c'est vraiment quelque chose qui aura poursuivi pendant presque 60 ans.
Et ce qu'ils expliquent aussi, il y a deux choses, c'est que ce qui l'a poussé à écrire, en fait, c'est sa passion pour les langues. Et ça explique pourquoi, dans tous les romans qu'il a écrits, mais il a inventé des nouvelles langues. Parce qu'il adore les langues étrangères.
Et ça, on y reviendra, mais c'est hyper présent et très bien expliqué dans l'exposition. Ouais. Et il voulait un peu lier la linguistique et la littérature anglaise.
Et deuxième chose aussi, par rapport à toutes ces histoires qu'il écrit, c'est qu'il y en a beaucoup qu'il a écrites pour ses enfants.
Mm.
Notamment Le Hobbit, en fait, qui est au départ un conte pour enfants. Après...
Et d'ailleurs, il était assez ami avec C.S. Lewis, qui est l'auteur de Narnia.
Ah
ah, oui, on parle à la fin, mais c'est vrai qu'à la fin, il y avait quand même beaucoup de choses à suivre.
Alors, avant tout, faites attention en descendant les escaliers.
Ah oui, quand vous descendez dans la BNF. Alors la BNF, c'est la Bibliothèque Nationale de France.
Ah non, moi, ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs.
Vous allez vous rompre le cou. Ouais. Il y a des ascenseurs.
Prenez les ascenseurs, plus safe.
Donc, une fois que vous avez réussi à descendre les escaliers sans vous rompre le cou, vous arrivez...
Dans une super expo. Moi, ce que j'ai bien aimé, dès le départ... Oh, une petite biographie, hein, que mignonnette, mais ça va.
Ouais, mais c'est ce qu'on vous a dit, en fait. Bien. C'est vraiment les quatre dates qui se courent après, c'est tout, c'est très bien.
Moi, ce que j'aime bien dans l'intro, c'est qu'il nous explique tout de suite qu'il y a les œuvres réalisées par Tolkien, qui sont signalées sur les cartels par un petit symbole, c'est sa signature, toutes les lettres de son nom entremêlées, et qu'il y a les œuvres que la BNF considère comme des images mentales de l'œuvre de Tolkien, c'est-à-dire des œuvres qui, alors ils n'en sont pas sûrs, mais qui peut-être ont pu l'inspirer. Et je trouve que dès le départ, c'est bien de poser ce principe.
Ouais, soit qui ont pu l'inspirer, soit qui peuvent naître dans votre esprit quand vous lisez le livre.
Oui, voilà. Voilà.
On vous en dira plus après quand on parlera des œuvres. Mais oui, c'était hyper intéressant. Et en plus de ça, moi je m'attendais en lisant ça à ce que les œuvres faites par Tolkien, ce soit surtout des manuscrits, qu'il y en ait quelques-unes. Mais en fait non, parce que le mec, il a un super bon coup de crayon.
Le mec, c'est un malade.
Il a tout dessiné, il a tout fait. Voilà, pareil, on vous en reparlera plus tard, mais...
sincèrement, moi, de ce que je ressors en général, c'est qu'il n'y avait pas besoin des œuvres comparatives.
Non, mais c'était hyper bien qu'elles soient là.
Oui, mais l'œuvre de Tolkien se suffit à elle-même.
Ouais.
C'est impressionnant. Après, donc, on arrive tout de suite, donc ils nous font une énorme intro sur l'univers, on va dire, pré-Hobbit, et tout l'univers de Tolkien. Et moi, j'ai commencé un peu à flipper.
Ouais, moi aussi.
Parce que là, il y avait une énorme chronologie.
On entre dans la deuxième salle, ouais, juste, la après deuxième salle. Le, juste après l'intro. Ouais.
Et là, il y a une énorme chronologie. Âge d'or, âge de la lune, nous, âge du soleil.
Non, c'est âge 1, âge 2, âge 3.
Oui, mais au-dessus, il y a, l'âge,
ça. Ah, oui.
Il y a l'âge du soleil.
Qui essaie de nous expliquer la chronologie du monde de Tolkien en général.
Un an égale 10 ans,
je à me côté, suis dit. À côté, vous avez une chronologie parallèle qui vous réexplique un peu les grands thèmes du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Alors ça, si vous avez lu les bouquins ou vu les films... C'est bon, là, vous raccrochez un peu les wagons parce qu'on voit de quoi ça cause, ça vous rappelle un peu tout ça. Cette exposition, je pense qu'il faut quand même y aller, pas en étant le dernier des fans de Tolkien, d'avoir tout lu et tout, c'est pas la peine. Mais tout de même, en ayant envie d'y aller à la base. Si Le Seigneur des Anneaux, c'est pas votre tasse de thé, que vous aimez pas la fantasy, que Tolkien, ça vous parle pas du tout, vous avez pas vu les films, pas lu les bouquins, là, vous allez vous faire chier.
Ouais, mais moi, sur la première salle, je me suis dit... Je vais être perdu.
Ouais, ça va être que pour les méga connaisseurs.
Ouais.
Vous avez des cartes, c'est vachement bien, les premières cartes qu'il va dessiner lui-même. Et cette méga chronologie, et je me suis dit, oh boy, fait que pour les connaisseurs, et nous on va être largués. Ouais.
Et en fait, j'ai été tout de suite rassurée, parce que juste à côté, il y a une carte interactive qui indique donc les lieux de vie de tous les types d'êtres
tous
qui
les peuples,
vivent,
tous,
de
les peuples.
Tous les peuples.
Et le
parcours de l'anneau.
Tout à fait, le voyage que
et
fait l'anneau.
Et en fait, cette carte va servir de fil rouge à l'exposition.
Parce que l'exposition, elle est constituée de deux parties.
Ouais.
Une première grosse partie.
Très grosse partie.
C'est ça, la principale partie de l'exposition, où on vous présente les peuples les uns après les autres.
Ouais.
Plus
l'univers
quelques autres.
De la terre du... Non, l'univers de Tolkien.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas que la terre
tout l'univers qu'il a tissé. Et après, une deuxième plus petite partie où c'est plus Tolkien et la manière dont il a travaillé et dont il a été édité et ses sources.
Tolkien,
c'est Oxford,
le personnage, quoi.
Voilà, c'est ça. Et dans cette première partie, à chaque fois qu'on aborde un nouveau peuple et un nouveau lieu de vie, vous avez la petite carte du début qui est remise avec les trois lieux.
Par contre, le reproche que je pourrais faire, c'est qu'en fait, la carte apparaît avant le panneau explicatif. Et du coup, des fois, c'est pas orienté comme il faut. Et on commence à visiter la salle sans avoir vu le panneau, du coup on sait plus où on en est. Un peu, je trouvais que des fois c'était pas orienté exactement comme il fallait. Mais chaque espace a sa couleur. Par exemple, encore une fois, les elfes, il y a une moquette verte. Parce que les elfes, je sais pas, ils marchent sur des coussins, du coup ils sont doux et ils vivent dans la forêt en général, du coup moquette verte. Mais chaque section a son...
Oui, et les couleurs étaient pas LED, elles
non,
étaient
non,
bien.
Là, la moquette verte, c'était...
Non, elles étaient bien. C'était... En plus, parce qu'il y a du parquet au sol, je pense que ça, c'est la BNF de manière générale, donc c'est assez agréable, en plus d'avoir du parquet au sol, plus ces murs de couleurs qui sont bien, qui vous mettent dans les ambiances, mais sans trop forcer non plus. Et la muséographie, alors je vais pas vous divulguer tout, un peu tous les petits trucs qu'ils ont fait, mais elle est maligne, c'est hyper malin. Il y a certains trucs qui sont très très malins où c'est fait de manière assez simple, mais c'est bien pensé pour vous plonger dans l'ambiance tout de suite.
Ouais.
Je vais spoiler un exemple. On est dans une partie sur la forêt. Ils ont reproduit sur un bout de mur en grand une aquarelle de Tolkien d'un bout de forêt. Ils ont mis un miroir en plafond et un miroir au sol. Enfin, pas partout dans la pièce, hein, juste un petit peu un bout au-dessus, un bout en dessous. On a l'impression que le bout de forêt qui est peint s'allonge à l'infini vers le haut et que les racines s'allongent à l'infini vers le bas. Et vous avez tout de suite l'impression, vous comprenez cette impression de forêt immense, un peu inquiétante, dont on est en train de vous parler. Voilà. Et il y a des petits trucs comme ça qui sont extrêmement malins. Et ça évoque très bien ce qu'on est en train de vous dire. Et on s'y croit. Autre chose qui était aussi vraiment très très bien fait, assez malin, quand vous arrivez dans la partie sur les nains, de la partie sur la Moria, vous passez de la section verte des elfes, des nefles, à la section beaucoup plus sombre, peinte de murs gris foncé de la Moria, et vous avez la porte de la Moria qui est recréée sur un mur, éclairée de lumière noire.
Speak, friend, and enter. What's the Elvish word for friend?
Bella.
Comme quoi, la porte répond au doux nom de Bella. voilà, cette blague a été déjà faite 1000 fois.
Et du coup, donc toujours en termes de muséographie, donc la première partie sur tout l'univers de Tolkien et donc la deuxième partie sur Tolkien lui-même. Et sincèrement, je me suis pas arrêtée.
L'expo est longue.
L'expo
ça,
est
soyez prêts à déjà surtout à regarder beaucoup partout, à tout lire parce que ça donne envie de lire, ça donne envie de tout voir.
Oui. Puis les cartels sont assez bien faits.
Ouais, tout est chouette.
C'est un peu petit peut-être parfois. Puis il y avait du monde.
Il y avait du monde, mais c'est vrai que c'est super. Mais quand vous arrivez au bout et qu'en fait c'est pas le bout qu'il y en a encore derrière, Surtout que c'est un peu sur la vie de Tolkien et tout ça. Bon, bah, c'est la fin. C'est bien, c'est une bonne partie. Hein. C'est chouette, là, encore une fois, bah, y a tout, justement toutes ces inspirations dont vous parlez au début. Les bouquins qu'il avait, Beowulf, le Kalevala, qui est la grande légende nordique, un peu l'équivalent de l'Odyssée nordique, ce genre de choses. Bon, bah, il y a tous ses livres à lui. Ça recrée un peu son bureau à Oxford, la bibliothèque d'Oxford. Et le travail après de son fils pour éditer les manuscrits. Tout ce qui est édité à partir de 77, notamment le Silmarillion et tout ce qui est venu après, ça a été édité par son fils, qui d'ailleurs nous a quittés cette semaine. Donc cette deuxième partie, tout ça pour dire que c'est un peu plus érudit, mais ça arrive un peu en
bout de course. C'est pas érudit, non, c'est juste que ça arrive en bout de course et que t'es pas forcément là pour ça.
Non, c'est vrai. Bah là, justement, c'est là où il parle qu'il est ami avec C.S. Lewis, l'auteur de Narnia.
C'est vrai,
on a quelques photos de lui avec ses gamins, voilà. Soyez préparés quand vous arrivez à l'exposition, mais ça, on vous le dit dès le texte d'introduction. La traduction qui a été utilisée pour les cartels, c'est pas la traduction, la vieille traduction qui a été utilisée notamment pour les films, mais celle qui date de 2016, qui a été faite par Daniel Lauzon. Et cette nouvelle traduction, Daniel Lauzon a notamment changé les noms de lieux, les noms propres, les noms de lieux, les noms de personnages. Donc soyez pas surpris si Rivendell, c'est Fandeval. Si l'autre Lorienne, c'est la Lorienne, c'est le comté et pas la comté. Voilà, c'est Sam Saget et pas Sam Sagas. Enfin, si vous êtes un peu habitué, si vous avez vu les films 40 fois et qu'il y a des noms qui vont un peu vous écorcher l'oreille, c'est normal, c'est parce que c'est la nouvelle traduction. Et d'ailleurs, je suis un petit peu chagrine.
Chafouin.
Je suis clairement chafouin. Parce que Sylve Barbe s'appelle pas Sylve Barbe, il s'appelle Barbe Bois. Et alors moi, ça me rend ouf, parce que déjà rien que Sylve Barbe, ils avaient quand même, ils étaient passés juste à côté d'un excellent jeu de mots. Pourquoi le mec, il s'appelle pas Barbre? Ça nous fait un jeu de mots à tiroir. Et encore une fois, le mec est passé à côté. Voilà, ça m'agace, j'aurais dû lui écrire un courrier.
Charmant. Vous êtes chaudement bête.
On fait les œuvres. Vas-y. Alors, les œuvres en tant que telles. Vous avez beaucoup, beaucoup de feuilles de manuscrits, mais aussi beaucoup, beaucoup de ces dessins. Et ça, c'est super chouette. Ouais. Parce que les feuilles de manuscrits, vous allez pas les relire toutes. C'est chouette d'en avoir plein, mais on passe un peu devant. C'est cool qu'elles soient là. Il y a des premières éditions, mais il y a surtout beaucoup de ces dessins. Il y a les maquettes des couvertures des premières éditions. C'est lui qui dessine les couvertures. Des dessins que si vous aimez un peu Le Seigneur des Anneaux, tout cet univers, vous avez déjà vu passer, et en fait c'est Tolkien qui les a fait lui-même. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on comprend dès le début que tout cet univers fantasy, mais pas seulement de dire « Ah oui, il y a des elfes et des nains, c'est Tolkien qui l'a inventé », certes, mais en plus de ça, tous les visuels aussi, toutes les runes des nains maintenant qu'on retrouve dans World of Warcraft, enfin partout, hein, les runes des nains, les entrelacs des elfes... C'est Tolkien qui l'a inventé.
Mais il a tout inventé. Enfin, moi,
et il l'a pas sorti de n'importe où. Et justement, l'expo est très bien parce qu'ils nous mettent toutes les sources des pays du monde, tout ce qui a pu l'inspirer. Donc le gars était quand même professeur de base anglais à Oxford. Il était nourri de culture anglo-saxonne, certes, mais pas seulement. Aussi de légendes nordiques, de légendes chinoises, vraiment de plein de choses. Et c'est un peu là que viennent jouer... les œuvres dont Vicky tu parlais tout à l'heure, des œuvres qui viennent appuyer son propos à lui, bah c'est qu'on a régulièrement des épées de l'âge de bronze nordique, danoise, qui ressemblent vraiment aux épées qu'on voit dans les films du Seigneur des Anneaux. Donc je dis, ah oui, c'est qu'un peu comme ça qu'on l'imagine, c'est peut-être ça qui l'a inspiré. Il y a un arc et un carquois chinois du XVIIe siècle. Il y a plein de choses qui traversent les siècles, qui traversent les pays. Et on voit tout à fait quelles ont été ses sources d'inspiration, aussi des manuscrits, des contes, des illustrateurs du 19e siècle, comme Gustave Doré, Rackham. Enfin, c'est un tourbillon de folie. Surtout que la qualité des objets sont incroyables. Et on se dit que ça, ces objets-là, c'est même pas les œuvres principales, c'est que là pour appuyer le propos. Oui.
Mais même sans parler des œuvres qu'on compare, mais Tolkien... Mais je sais, il avait
un grand malade.
Un monde dans sa tête. Parce que, par exemple, donc lui, son roman, ses romans, il voulait que ce soit des romans historiques. Donc, qui dit roman historique, dit document d'époque. Et donc, il a créé des documents d'époque. Par exemple, il a créé, alors, le livre de Mazarbul,
Dis-le avec un peu plus d'aplomb, on va comprendre.
Le livre de Mazarbul. J'espère que c'est ça, enfin, je l'ai écrit comme ça. Et donc, il a écrit donc, 3 pages qui restaient d'un vieux manuscrit très ancien, et ensuite il les a brûlées pour faire un effet ancien. Et je me dis, mais enfin, c'est incroyable.
Il y avait une carte, il dessine une carte, et au lieu de la signer Tolkien, il la signe Bilbo Baggins. Oui, il la signe Bilbo Sacquet pour que ça fasse... pour qu'on croit à son histoire, en fait, pour qu'on croit à son univers.
Et par exemple, pareil, y a dans la section du Gondor, il y a des dessins de tapis, parce que le Gondor, ils sont riches, donc ils ont des tapis.
C'était un petit peu too much. Mais le gars est vraiment allé au bout. Il a fait tout un système de maîtrise des hobbits. Que le roman est vu à hauteur de hobbits, ça va être raconté par des hobbits. Les hobbits, ils vont pas se servir d'un système métrique, ils vont se servir d'un système de mesure à leur hauteur à eux. Et c'est, rien que ça, c'est génial.
Il y a des cartes avec les distances que les hobbits peuvent parcourir en une journée. Pour que la carte soit faite de manière à ce que son récit soit juste en temps.
Et donc c'est même sans parler des langues qu'il a mises en place. Parce que oui, il a défini, par exemple, il a inventé l'elfique. Mais l'elfique, donc il invente la langue, il invente l'alphabet et l'écriture qui va avec. Et surtout, l'elfique, c'est pas que l'elfique. L'elfique, ça découle de plein d'anciennes langues. Enfin, c'est comme... le gars, il avait inventé le français, et puis du coup le latin qui vient avec, et toutes les langues indo-européennes qui avaient abouti au français. Donc on a un arbre des langues fait par Tolkien pour nous montrer les langues de la Terre du Milieu, comment elles sont reliées entre elles, de quelles autres langues elles sont issues. C'est incroyable.
Et puis, il y a aussi, derrière tout ça, une dénonciation de son époque. Parce que lui, donc, il vient un peu de la campagne anglaise, et donc notamment quand il s'intéresse à la forêt et aux Ents. Donc la forêt, c'est la puissance sauvage qui est préservée du monde humain et donc de la révolution industrielle. Et après la victoire des Ents sur Isengard, en fait, c'est les forces de la Terre qui, de toute façon, dépassera toujours la technique et les machines.
Ouais.
Et je trouvais ça... Enfin, il a vraiment un univers...
Mais à la fin, il dit quand même que son bouquin n'est pas une allégorie.
Non,
après, ouais, mais c'est intéressant quand même.
Mais il le dit quand
c'est
même.
C'est oui, tout à fait, Mais quand il y a des gens qui ont cru y voir une dénonciation de la bombe nucléaire, que l'anneau ce serait la bombe H, il a dit mais non, en fait, c'est pas ça.
Oui, mais il y a quand même, absolument.
Évidemment, mais je trouve ça bien aussi. C'est vrai que c'est aussi pour ça que je pense qu'on pourrait le relire aujourd'hui en se disant c'est profondément écologiste. Et au début, ils nous disent tout de suite, la vallée des Hobbits, ça serait un peu justement cet âge d'or anglais dans la campagne qui résiste un peu à l'envahisseur industriel. Mais pourtant, les Hobbits, c'est quand même un peu l'esprit clocher, ils sont quand même un peu étriqués. Et c'est un peu en sortant de leur comté qu'ils vont aussi un peu découvrir la vraie vie et se révéler eux-mêmes. Donc c'est pas non plus complètement blanc ou noir.
Ah oui, de toute façon, c'est ce qui parcourt aussi toute l'exposition, c'est que rien n'est blanc ni noir, il n'y a pas des gentils, des méchants, il y a toujours des réflexions.
Enfin, sauf Aragorn qui est beaucoup trop parfait.
Oui, non, mais voilà, Aragorn, au début, on a quand même des doutes.
Il a une cape, il est chelou.
Après, il y a une petite section qui m'a un peu fait lever le sourcil, mais c'est la section à la mode avec une histoire sans femme, point d'interrogation.
Le sujet avait déjà été soulevé, notamment quand les films du Hobbit sont sortis, où ils ont rajouté un personnage féminin dans le Hobbit, parce que c'est vrai qu'il y a quand même zéro meuf.
Oui, mais je trouve quand même que après le propos était pas mal, en disant que finalement, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même femmes qui font les actions.
Non, il y a Éowyn qui tue le roi sorcier. Voilà. Point. Ce qui est quand même vachement bien.
Mais voilà, c'était un peu la partie où je me suis dit, c'est la petite partie qui fait plaisir.
Oui, mais c'était juste un texte. C'était pas non plus une partie incomplète. Et avait ça et le texte, le manuscrit avec le texte d'Éowyn qui tue le roi sorcier, c'était pas non plus trop appuyé. Alors, est-ce qu'on a des œuvres préférées parmi ce foisonnement de dessins, d'objets et de trucs ?
Alors, c'est pas une œuvre en particulier, c'est un concept plus général. En fait, c'est la manufacture d'Aubusson.
Ah ouais, c'était génial.
Qui a décidé de tisser Tolkien. Et donc tout au long de l'exposition, on a des aquarelles de Tolkien. Et en fait, la tapisserie d'Aubusson a repris ces aquarelles pour en faire des tapisseries. Donc, la première, je crois qu'elle a été tissée en 2018. Et donc là, ils ont lancé une série Tolkien.
C'est super, en plus, ça renoue tout à fait avec cette idée un peu la tapisserie un peu médiévale. Enfin,
Et puis, alors, les aquarelles de Tolkien sont incroyables, donc ça ne fait que mettre en valeur la tapisserie.
Moi, je traversais toute cette exposition en en prenant plein les yeux et plein les yeux et plein les yeux, en pensant que ça pouvait pas aller encore au-delà, et puis là, j'arrive sur une œuvre qui m'a butée. C'était un jeu d'échecs en ivoire, ils appelaient ça un jeu d'échecs dit de Charlemagne. En plus, c'était pour rien, c'est juste parce que c'était la section sur les olifants, qui sont les éléphants géants qu'on voit qui sont dans les deux tours. Et ben voilà, il y avait un jeu d'échecs italien de la fin du 11e siècle qui venait des collections de la BNF, justement. Et c'est un énorme machin avec des superbes pièces, des petits éléphants qui se battaient en ivoire. Enfin, ça correspondait encore une fois tout à fait au propos. C'était pas de Tolkien, c'était pas du Seigneur des Anneaux en particulier, mais bon, vous imaginez un truc un peu médiéval avec des éléphants et de la bagarre, et ben voilà, la BNF, elle vous sert sur un plateau d'argent et vous l'avez devant le nez. Et j'ai trouvé ça incroyable. Alors, les infos pratiques. L'exposition dure jusqu'au 16 février 2020. Et vraiment, courez-y, parce que c'est génial. C'est tous les jours de 10h à 18h, et le jeudi en nocturne jusqu'à 21h. Mais méfiez-vous, en ce moment, à cause des grèves, parfois les nocturnes sont annulées, et parfois l'exposition termine à 17h. Donc renseignez-vous, allez voir sur le site de la BNF, tout est indiqué. En plus de l'exposition, vous avez des visites pour les personnes non-voyantes et des visites en langue des signes françaises. Et il y a aussi un parcours enfant. Et à côté de l'exposition, le site Gallica, qui est le site où vous pouvez voir tous les documents de la BNF numérisés et vraiment aller naviguer dans leur collection. Gallica a fait toute une espèce de petit jeu de piste sur Tolkien, où très simplement ça vous apprend à comment vous servir de Gallica, et ça vous permet un peu d'aller vous amuser avec leur collection et de découvrir un petit peu en amont quelques petites choses qui seront dans l'exposition. C'est vraiment super chouette. Les tarifs, c'est 11€ en tarif plein, 9€ en tarif réduit. Et c'est gratuit avec les conditions habituelles, les enfants, les visiteurs handicapés. Et c'est gratuit aussi si vous avez le pass de la BNF.
Du coup, on y va. On y va.
Vous n'avez pas le choix, vous allez jusqu'à fin février.
Comme disait Gabriel, vraiment Tolkien, ça ne vous parle pas du tout.
Mais sinon, courez-y. Vous y allez avec qui, j'en sais. Vous y allez avec votre bande de potes.
Ah ouais.
Avec votre bande de potes, fin vingtenaire, mi-trentenaire, qui a grandi avec le Seigneur des Anneaux.
Faites comme nous, en partant, en vous disant que vous seriez probablement Gimli et Legolas, et en réalité, vous êtes plutôt Merry et Pipin. Don't think he knows about second breakfast, Pip. What about elevensies? Luncheon, afternoon tea,
dinner, supper. He knows about them, doesn't he? I wouldn't count on it. Et surtout, cette exposition, ce qui est méga chouette, c'est que moi, les bouquins, je m'y suis un peu cassé les dents plusieurs fois. Parce que j'ai trouvé ça chiant. Et je suis jamais arrivée au-delà de la page 150. Mais là, l'exposition, ça m'a encore une fois donné envie de les lire. Donc je vais quand même réessayer. Cet épisode touche à sa fin. Et on s'est vraiment, vraiment bien amusé à le faire. Et à aller voir l'expo. Alors, on vous retrouve très vite. En attendant, vous pouvez nous écouter sur Podbean, Spotify, iTunes. Nous retrouver sur
Twitter, Instagram.
Parlez de nous autour de vous. Et on vous dit à très bientôt.
Salut Gabriel.
Salut Vicky.